Bonjour à toutes et à tous, au micro Mamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 17 juillet 2024. Il est 5h30 temps universel, voici le sommaire. Présidentielle américaine du 5 novembre 2024, la convention du Parti républicain se poursuit dans le Wisconsin après la désignation officielle de Donald Trump comme candidat du parti. Ses anciens rivaux à l'investiture républicaine lui ont apporté leur soutien. En meeting à Las Vegas, le président Joe Biden appelle à interdire le type de fusil semi-automatique utilisé dans la tentative d'assassinat samedi contre Donald Trump. Grève des avocats en Guinée, ils protestent contre ce qu'ils considèrent comme des arrestations arbitraires. L'Ouganda est impliqué dans une rébellion RDC selon un rapport d'experts de l'ONU. Les autorités congolaises attendent des clarifications de Kampala.
Nous travaillons avec le ministère aussi pour obtenir de clarifications sur ces ajustements qui ont été relevés dans le rapport des experts des Nations Unies et ont tiré les conséquences.
Interview de Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias de la RDC, à suivre dans la partie magazine. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et les sports présentés par Yakuba Ouidraogo. Mais pour commencer, voici le journal. Commençons par l'actualité américaine. La convention du Parti républicain se poursuit à Milwaukee, dans l'État du Wisconsin, au lendemain de la désignation de l'ancien président Donald Trump comme candidat du parti à la présidentielle du 5 novembre prochain. L'heure est au rassemblement. Plusieurs rivaux de M. Trump lors des primaires lui ont apporté leur soutien. Lionel Gaïma.
Soucieux d'illustrer l'unité de la droite américaine derrière l'ancien président à 4 mois de la présidentielle, plusieurs anciens rivaux de M. Trump se sont exprimés à la grand-messe du parti et lui ont apporté leur soutien. Je commencerai par clarifier une chose. Donald Trump a mon soutien inconditionnel. Un point, c'est tout, a dit Nikki Haley, gouverneur de la Caroline du Sud. Donald Trump a été diabolisé. Il a été poursuivi en justice et il a failli perdre la vie. Nous ne pouvons pas le laisser tomber. Et nous ne pouvons pas laisser tomber l'Amérique, a déclaré Ron DeSantis, gouverneur de Floride. Si vous voulez une frontière sécurisée, votez Trump. Si vous voulez rétablir la loi et l'ordre dans ce pays, votez Trump. Si vous voulez relancer l'économie de ce pays, votez Trump, a ajouté Vivek Ramaswamy. Fort de tout ce soutien et avant même la fin de la convention jeudi, Donald Trump a annoncé repartir en campagne avec un meeting samedi dans l'État du Michigan.
Le président Joe Biden, quant à lui, est retourné sur le terrain mardi pour la première fois depuis la tentative d'assassinat visant Donald Trump. Il s'est exprimé à Las Vegas lors d'un événement organisé par la principale association de défense des droits civiques du pays, la NAACP. Il a appelé à interdire le type de fusil semi-automatique utilisé dans la tentative d'assassinat samedi contre Donald Trump. Aidez-moi à débarrasser les rues de l'Amérique de ces armes de guerre. Un AR-15 a été utilisé dans les tirs contre Donald Trump. Il est temps de les supprimer, a déclaré le président démocrate. Il n'a pas manqué de fustiger le bilan du mandat de l'ancien président. Un enfer pour les Afro-Américains, selon lui. Le président Biden réfléchit à des réformes de la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, comme l'instauration d'une durée limite de mandat des juges actuellement nommés à vie ou l'instauration d'un code éthique, ont rapporté plusieurs médias américains. Les mesures envisagées par Joe Biden incluent aussi la mise en place d'un amendement constitutionnel qui annulerait la récente décision de la Cour suprême sur l'immunité présidentielle, reconnaissant au président une large immunité pénale. Mais de tels changements nécessitent l'approbation du Congrès, dont la Chambre des représentants est actuellement en majorité conservatrice. L'influent sénateur démocrate Robert Menendez a été reconnu coupable par un jury hier mardi à son procès pour corruption à New York. Bob Menendez comparaissait pour avoir usé de son influence au profit des chefs d'entreprise de l'Égypte et du Qatar. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Âgé de 70 ans, ce vieux routier de la politique américaine a été jugé coupable de conspiration en vue de commettre des actes de corruption conspiration pour agir en tant qu'agent d'un gouvernement étranger, ainsi qu'obstruction de la justice, a indiqué le parquet. L'épouse du sénateur Nadine Arslanian Menendez, sur laquelle les avocats du sénateur ont tenté de faire porter le chapeau, est aussi poursuivie, mais doit être jugée séparément, car elle doit être soignée pour un cancer du sein. Les enquêteurs ont découvert lors d'une perquisition au domicile du couple en juin 2022, 480 000 $ en liquide dans des enveloppes auxquelles s'ajoutent 70 000 $ retrouvés dans un coffre-fort appartenant à Nadine Menendez ou encore 13 lingots d'or. Bob Menendez est un sénateur influent, ancien président de la puissante commission des affaires étrangères du Sénat, dont il a démissionné à cause de cette affaire. Un cas classique de corruption à grande échelle, selon l'accusation.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine à présent, en Guinée, les avocats ont entamé hier une grève de 2 semaines pour protester contre les arrestations arbitraires selon l'ordre de la profession. Les précisions avec Claire Morin-Gibourg.
Avec ce mot d'ordre de grève, les avocats protestent contre les arrestations arbitraires et autres kidnappings suivis de détentions au secret de citoyens guinéens, a déclaré à la presse leur porte-parole Gabriel Kamano. Oumar Sylla, plus connu sous le nom de Fonike Menge, et Mamadou Biloba, deux responsables d'un mouvement citoyen, ont été arrêtés le 9 juillet. Les autorités répriment toute voix tentant de mobiliser pour un retour des civils au pouvoir. Elles ont prononcé en 2022 la dissolution du FNDC, collectif de la société civile, après avoir interdit toute manifestation. Nombre d'opposants mis en cause devant les juges ont été poussés à l'exil. Les autorités ont retiré le 22 mai leur agrément à 4 radios et 2 télévisions. La grève des avocats guinéens doit durer jusqu'au 31 juillet à 23h59, le jour où le tribunal doit rendre dans la matinée son jugement au procès du massacre du 28 septembre 2009.
Amnesty International et les États-Unis ont condamné les lourdes peines de prison prononcées contre 2 ex-députés pro-démocratie en Eswatini. Ils y voient une volonté de faire taire l'opposition et demandent leur libération sans condition. Nani Talani.
La haute cour de Mbabane, la capitale, a condamné 3 ans après leur arrestation les députés Ndodozi Basede Mabuza à 25 ans de prison et Mutandeni Doubé à 18 ans pour meurtre et pour avoir violé la loi contre le terrorisme votée en 2018. Tous deux avaient été non coupables. Les autorités eswatiniennes doivent immédiatement annuler ces condamnations et peines injustes et infondées, selon le directeur régional d'Amnesty pour l'Afrique de l'Est et l'Austral, Vongai Tikwanda. Il qualifie leur emprisonnement de tentative flagrante de réprimer toute opposition pacifique. Les deux hommes ont été visés pour avoir courageusement demandé des réformes politiques et des droits humains dans le pays, selon l'ambassade des États-Unis, qui exhorte le gouvernement eswatinien à ne pas utiliser les tribunaux pour réprimer les opinions dissidentes. Mbabane a qualifié le communiqué américain d'affront. Messieurs Mabuza et Doubé, 2 anciens députés, avaient été arrêtés en juillet 2021 en pleine vague de manifestations visant à réclamer des réformes démocratiques que la police avait sévèrement réprimées.
Un tribunal kényan a prolongé hier de 30 jours la détention d'un homme qui, selon la police, a avoué avoir tué et démembré 42 femmes. L'enquête a été ouverte après la découverte des corps des femmes dans une décharge de Nairobi. Rosine Munezero.
Collins Jumaïsi Kalusha, arrêté lundi matin, a comparu hier devant un tribunal de Matadara à Nairobi. À la suite de l'audience, la magistrate Irene Gichobi a prolongé la détention du suspect de 30 jours pour les besoins de l'enquête. Lors d'une conférence de presse lundi, le chef de la direction des enquêtes criminelles, Mohamed Amin, avait décrit le suspect âgé de 33 ans comme un tueur en série. Selon les autorités, le suspect a avoué avoir commis 42 meurtres de femmes entre 2022 et juillet 2024, à la veille de la découverte des premiers corps. 10 corps de femmes démembrées ont été découverts dans le bidonville de Mukuru, dans le sud de Nairobi. La police a indiqué hier détenir 2 autres potentiels suspects. Lors d'une perquisition au domicile du suspect, situé à 100 mètres de la décharge, les policiers ont affirmé avoir découvert 24 cartes SIM et une machette. La police a été vivement critiquée après la découverte des premiers corps, car la décharge est située à moins de 100 mètres d'un commissariat.
La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a affirmé mardi soir depuis Abidjan qu'il n'était pas possible de continuer la coopération militaire au Niger, faute de fiabilité dans les relations avec le régime arrivé au pouvoir par un coup d'État il y a près d'un an. L'Allemagne avait annoncé le 6 juillet cesser d'exploiter sa base de transport aérien au Niger, ainsi que le retrait de ses soldats d'ici au 31 août et la fin de sa coopération militaire avec Niamey. Dans le même temps, nous n'avons pas stoppé l'aide humanitaire car le peuple du Niger n'est pas responsable de ce qui arrive, a-t-elle ajouté lors d'un point de presse commun avec le président ivoirien Alassane Ouattara à l'occasion d'une visite en Côte d'Ivoire. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
Le Nigeria va abriter la nouvelle Banque africaine de l'énergie qui va démarrer d'ici décembre avec un budget initial de 5 milliards de dollars, a annoncé la dernière réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation africaine des producteurs de pétrole. Axée sur les combustibles fossiles, la banque vise à financer des projets énergétiques en Afrique et à soutenir ses objectifs de transition énergétique. Le Nigeria a investi 100 millions de dollars dans la banque, plus que les 83,33 millions de dollars requis pour les États membres. Le FMI a approuvé un financement de 786 millions de dollars pour lutter contre le changement climatique en Tanzanie, tout en envisageant un déboursement séparé de 149 millions de dollars pour l'appui budgétaire. L'économie tanzanienne, basée sur le tourisme, l'exploitation minière, l'agriculture et l'industrie manufacturière, est restée résistante face aux phénomènes météorologiques extrêmes et au changement climatique grâce à l'essor du secteur des services. Pour terminer, l'Égypte va créer une usine de pneus avec un investissement de 1,07 milliard de dollars dans la zone économique du canal de Suez. C'est ce qu'indique un communiqué du cabinet présidentiel.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Salut Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Un seul sujet au menu, Kylian Mbappé réalise son rêve et enflamme Madrid.
Pour son nouveau Galactique, le club espagnol a déroulé non pas un tapis rouge, mais un tapis bleu pour accueillir Kylian Mbappé comme une rockstar dans son nouveau jardin de Bernabéu, rénové et modernisé qui a accueilli des milliers de spectateurs à l'occasion. Aux côtés de Zinedine Zidane et le président du Real Madrid, Florentino Pérez, il livre ses premiers sentiments en espagnol.
Je vais essayer de parler en espagnol.
Wow,
c'est incroyable ici. J'ai dormi plusieurs années avec le rêve de jouer au Real Madrid. Aujourd'hui, mon rêve se réalise et je suis un garçon heureux, très heureux.
Après avoir passé sa visite médicale à l'hôpital de la Moralea, en périphérie de Madrid, Mbappé a enfin paraffé son contrat de 5 ans avec son président Florentino Pérez au centre d'entraînement du club madrilène. Il a pris la pause devant des répliques de la Ligue des Champions, son grand rêve inabouti à Paris. Pour Mbappé et le Real, c'est enfin la concrétisation d'un transfert longtemps espéré, attendu et repoussé.
C'est incroyable. J'ai imaginé ce jour tellement de fois dans ma vie qu'au final je me suis peut-être trompé parce que j'ai fait tous les scénarios sauf celui-ci. C'est incroyable l'accueil que j'ai reçu. Vraiment un plaisir, vraiment reconnaissant de l'amour qu'on me donne ici à Madrid.
Sur le plan sportif, partie libre du Paris Saint-Germain, Mbappé arrive en Espagne après un Euro 2 se vend sur le plan individuel, un but sur pénalty et une passe décisive, conséquence surtout de son nez cassé lors du premier match du tournoi. À Madrid, il va former avec Vinicius Junior et Jude Bellingham un trio offensif qui fait déjà rêver les rois d'Europe qui ont remporté le 1er juin dernier leur 15e Ligue des Champions.
Vinicius est un joueur unique, un grand joueur. Je suis très heureux de jouer avec lui, avec Rodrigo aussi et avec tous les joueurs du Real Madrid, les attaquants et tous les autres postes.
Le Real s'attend à amortir ce transfert qui reste onéreux avec un salaire estimé à 15 millions d'euros net par saison et une prime à la signature supérieure à 100 millions d'euros grâce aux différentes retombées économiques apportées par les joueurs français. Champion d'Espagne en titre, Le Real Madrid débute le championnat à Majorque lors de la première journée de la Liga disputée le week-end des 17 et 18 août. Les éventuels débuts au stade Santiago Bernabéu de la Superstar française pourraient avoir lieu la semaine suivante à l'occasion de la réception d'un des promus, le Real Valladolid.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. La dépouille de l'ex-président burundais Pierre Buyoya, mort en France en décembre 2020 et inhumé au Mali, a été rapatrié hier mardi dans son pays natal. L'ancien chef de l'État décédé à 71 ans du Covid-19 n'avait pu être inhumé au Burundi en raison d'une condamnation par contumace à la perpétuité. Il doit être inhumé ce mercredi dans la stricte intimité familiale sur sa propriété familiale à Rutovu, dans le sud du pays. Eric Manirakiza a joint à Bruxelles l'ancien vice-président du Burundi, Frédéric Bamvugi Yumvira.
D'abord, c'est un sentiment de satisfaction parce que un président de la République, un chef d'État, indépendamment de comment il est venu, indépendamment de comment il a dirigé, il est chef d'État. On avait été justement frustrés d'avoir qu'un pouvoir ose refuser qu'un ancien président de la République puisse être enseveli dans son pays ou sur sa colline selon la volonté de la famille. Donc c'est déjà un sentiment de satisfaction.
Vous avez été son vice-président, vous n'étiez pas de la même famille politique. Qui était-il, le président Buyoya?
Le président Buyoya, c'était un technicien militaire. Quelqu'un qui avait fait de hautes études militaires, c'est en Belgique, en France et en Allemagne. C'est quelqu'un qui était militairement très apprécié. Sur le plan politique, c'est quelqu'un justement qui avait opéré un coup d'État le 3 septembre 1987. Mais moi, je l'ai connu lorsque il avait renversé le président Dibanunga Anya le 25 juillet 1996. Et c'est à partir de là que le parti Frodebou a refusé justement un tel comportement militaire et nous lui avons opposé une résistance politique en lui disant que ça ne devrait pas continuer à se faire comme cela, que la meilleure solution est qu'on puisse entendre sur comment sortir justement d'un tel engrenage. C'est ainsi que nous avons organisé de petites négociations, mais visant à nous mettre d'accord sur comment avoir des institutions ayant comme objectif les négociations globales entre les politiciens burundais et pour qu'on puisse ensemble imaginer la voie de sortie définitive.
Qu'est-ce qui les distingue des autres chefs d'État qui ont gouverné le Burundi, selon vous? Quel est l'héritage de Pierre Buyoya?
Pour moi, personnellement, l'héritage de Pierre Buyoya, c'est qu'il est venu d'abord dans un contexte difficile. Dès qu'il est venu le 3 septembre 1987, l'année qui suivait, le 15 août 1988, il est intervenu le conflit Nyega-Marangara qui opposait la Hutu et les Batutsi. Et voilà que ce qui le distingue, pendant qu'il y avait des Batutsi qui cherchaient la récidive de 1972, il a ordonné que ça puisse être limité uniquement sur Nyega-Marangara et non pas étendre le conflit sur tout le pays pour permettre justement l'élimination de la l'élite Hutu. Et je crois que quand même, on devrait lui dire merci à ce propos.
L'ancien vice-président du Burundi, Frédéric Bamvugi Yumvira. Le récent rapport des experts des Nations Unies est en phase avec la position du gouvernement congolais au sujet de l'implication de l'Ouganda dans la rébellion dans la partie est de la RDC. C'est l'avis du ministre de la Communication et des Médias de la RDC, Patrick Muyaya Katembwe. Le porte-parole du gouvernement de la RDC a déclaré que son pays privilégie la paix entre tous les États de la région des Grands Lacs. Ses propos ont été recueillis par Antoine Roger Bolamba.
Évidemment, nos propres informations ont été corroborées par ce qui a été dit dans les rapports des experts des Nations Unies. Mais comme vous le savez, nous sommes dans des opérations conjointes que nous menons avec les forces armées ougandaises dans la partie du Grand Nord, dans la lutte contre les terroristes des ADF. Nous avons à ces propos utilisé des voies diplomatiques, en tout cas à notre disposition, même y compris au plan militaire, parce que nous travaillons avec eux militairement aussi, pour obtenir de clarifications sur ces agissements qui ont été relevés dans le rapport des experts des Nations Unies et ont tiré les conséquences.
Qu'est-ce que la République démocratique du Congo compte concrètement faire pour remédier à cette situation de crise?
Non, écoutez, ça dépendra des clarifications qui vont nous être données du côté ougandais, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous faisons de progrès. Nos militaires essuient des tirs au front ensemble quand il faut combattre les mouvements terroristes et les ADF. On ne peut pas comprendre que dès lors que nos militaires font du retour de la sécurité dans les régions communes une priorité absolue, que d'autre part il y ait des individus, qui qu'ils soient, qui puissent donner un coup de main à ceux qui en deuil et tuent nos populations. Cela doit être clarifié à tout.
Aujourd'hui, avec la manière où les rebelles sont en train de prendre de plus en plus un certain nombre d'espaces et que les FARDC sont en train parfois de laisser la place aux rebelles, qu'est-ce que vous pensez faire pour essayer finalement de sortir des rebelles des espaces occupés actuellement?
Non, il ne faut pas penser que les FARDC laissent la place aux... Non, pas du tout. Ici, il ne vaut même plus parler de rebelles. Vous évoquiez tout à l'heure le rapport des experts des Nations Unies qui parle clairement du Rwanda qui a 4000 militaires, qui dépasse de loin les nombres des terroristes plutôt, et parmi lesquels on recrute des enfants dans les camps des déplacements au Rwanda ou au Uganda. Tout ça, c'est une série de crimes. Mais quoi qu'il en soit, nous, nous assurons non seulement que le pays soit défendu, mais aussi que nous puissions nous réapproprier toutes les parties qui sont aujourd'hui occupées par l'ennemi.
Patrick Mouyeya Katembwe, ministre de la Communication et des Médias de la RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Alors que les cours du cacao battent des records sur les marchés de matières premières, le Ghana a annoncé une diminution de 50% de sa production cette année en raison de mauvaises conditions météorologiques. La Côte d'Ivoire évoque une baisse de 25% pour le mois de juin. Claire Bourajibour a joint le rédacteur en chef de l'agence Ecofine pour faire le point sur cette saison évoquée comme désastreuse par les producteurs et exportateurs.
Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas les prix qui conditionnent la production sur le marché, mais c'est la production qui conditionne les prix. Et les traders ont anticipé qu'il n'y aurait pas assez de production parce que les planteurs ont commencé à signaler des problèmes au niveau de la capacité des plantes à générer le cacao qu'il fallait. Donc c'est pour ça qu'on a assisté à une saison où les prix vont en flèche en haut, mais la production, elle est latente parce que la production, elle n'est pas dépendante forcément des prix. Elle est dépendante des facteurs comme la nature, la capacité des planteurs à pouvoir faire le travail.
Le Ghana a néanmoins annoncé aujourd'hui que les récoltes seraient 50% inférieures à la moyenne. Et d'ailleurs, certains producteurs sont forcés à la contrebande. Ils passent la frontière clandestinement avec leur production pour vendre le cacao à un meilleur prix en Côte d'Ivoire.
Mais il s'agit d'une réalité économique. La situation, c'est que la production de cacao n'est pas homogène entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, bien que ce soient les deux plus gros producteurs mondiaux. Il n'y a pas une harmonisation des prix, surtout à ceux qui sont les producteurs. Donc, du coup, c'est tout à fait normal que si le cacao apporte plus d'argent aux producteurs ghanéens lorsqu'ils le vendent en Côte d'Ivoire, c'est là ils vendent là-bas. Mais il faut comprendre une chose avec le Ghana. Le problème avec le Ghana, c'est que la monnaie ghanéenne s'est effondrée. Et du coup, les paiements qu'on fait aux planteurs ghanéens en monnaie ghanéenne n'ont pas vraiment de valeur. Donc, quand ils vont vendre en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils veulent recevoir le paiement en France et ça, qui a gagné de la valeur sur le CDI et ils veulent pouvoir avoir beaucoup plus d'argent.
Alors, les prix du cacao flambent sur les marchés financiers. À qui profitent ces prix et est-ce que les planteurs, les transformateurs de fèves en profitent réellement?
Alors ça se transforme directement en Afrique avant de vendre, oui, parce qu'ils ont une première valeur ajoutée au niveau local. Mais maintenant, ceux qui produisent le chocolat, non, parce qu'eux, ils subissent les prix des approvisionnements sur les marchés qui, eux, ont augmenté. Mais parce qu'il y a moins de cacao, alors pour les sécuriser, on paye plus de prix sur les contrats à fèves. Il faut aussi savoir qu'il y a des spéculateurs qui sont rentrés dans la danse et qui ont fait gonfler les prix sur ces contrats. Et en Côte d'Ivoire, ils n'en profitent pas parce qu'on a augmenté le prix à 1 500 kg, c'est-à-dire pratiquement 2 dollars. mais ça ne suffit pas vraiment par rapport à un pays comme le Cameroun, où la vente du cacao est directe pour les planteurs et ils ont atteint des prix de l'ordre de 3 000, même 4 000 francs, ça autour de 8 dollars et demi. Donc tout dépend en fait du pays et tout dépend de la politique de vente de cacao qui est mise en place.
Idriss Linge, rédacteur en chef de l'agence Ecofin. Présidentielle américaine pour terminer, après des mois de spéculation, Donald Trump a annoncé le nom de son colistier. J.D. Vance rejoint le ticket présidentiel républicain comme l'un des plus jeunes candidats à la vice-présidence depuis Richard Nixon en 1952. Son manque d'expérience dans l'arène politique va constituer sans doute son plus grand défi selon plusieurs observateurs. Reportage de Tina Klein, le récit est de Jean-Roger Bion.
Ladies and gentlemen, I am proud to announce. Mesdames et messieurs, je suis fier d'annoncer que le sénateur J.D. Vance bénéficie du soutien massif de cette convention pour devenir le prochain vice-président des États-Unis.
Donald Trump, candidat républicain à la présidentielle américaine, a choisi le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance, 39 ans, comme le colistier à la vice-présidence le premier jour de la Convention nationale républicaine à Milwaukee. Dans un message publié sur Truth Social, M. Trump a déclaré que M. Vance était la personne la plus apte à assumer la vice-présidence. L'identité politique de Vance est centrée sur ses liens avec la région de la Rust Belt aux États-Unis et ses sentiments populistes s'alignent sur l'appel de Trump à la classe ouvrière blanche. Joel Goldstein.
Parmi les options qui s'offraient à l'ancien président Trump, le sénateur Vance était celui qui est probablement le plus étroitement associé au style et à la philosophie MAGA du président Trump.
L'historien Joel Goldstein estime aussi que ce choix est inhabituel dans la mesure où la plupart des vice-présidents sont choisis pour tenter d'atteindre des électeurs en dehors de leur base existante plutôt que ceux qui en font déjà partie.
Je pense que ce que le président Trump espère, c'est qu'il contribuera à inciter à voter des électeurs qui ne le feraient peut-être pas autrement, qu'il va attirer des personnes qui ont des antécédents similaires à ceux du sénateur Vance.
Vance se fait connaître en 2016 avec ses mémoires « Hillbilly Elegie » qui décrivent la pauvreté de son éducation et le déclin industriel et économique de sa ville natale de Middletown dans l'Ohio. Les parents de Vance ont divorcé au début de son enfance et il a été élevé en grande partie par ses grands-parents, sa mère étant aux prises avec la toxicomanie. Enrôlé dans le corps des marines après le lycée, M. Vance est sorti plus tard diplômé de l'Université de l'État de l'Ohio et de la Faculté de droit de Yale. Il a travaillé comme investisseur en capital risque à San Francisco pour l'entrepreneur de la Silicon Valley, Peter Thiel, qui a également fait don de 10 millions de dollars à un super PAC, comité d'action politique soutenant la candidature de Vance au Sénat. Ancien critique de Trump, M. Vance a qualifié le comportement de l'ancien président de répréhensible et l'a qualifié d'Hitler de l'Amérique. Depuis, il est devenu un fervent partisan et défenseur de Donald Trump, mais reste le moins expérimenté des candidats à la vice-présidence. Joel Goldstein.
Je pense que l'attention qui sera portée à la question de la succession présidentielle, à la fois en raison de l'âge des candidats en lice et de la récente tentative d'assassinat sur la vie du président Trump, soulèvera des questions dans l'esprit de certains électeurs quant à la capacité du sénateur Vance à être président dès le premier jour, étant donné que le sénateur Vance a relativement peu d'expérience dans des postes gouvernementaux élevés.
Dans un environnement politique de plus en plus divisé, alors que M. Trump appelle à l'unité dans tout le pays, il reste à voir dans quelle mesure son colistier va contribuer à apaiser les divisions ou à les aggraver. Quelques heures après la tentative d'assassinat de M. Trump, M. Vance en a attribué la cause à la rhétorique de la campagne du président Biden.
« C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumoufa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos plateformes digitales, Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.